Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.
Ravi de vous retrouver sur cette troisième journée du salon CIPCA, le salon l'immobilier bas carbone, ici toujours au Grand Palais à Paris, dans le 8e arrondissement, troisième et dernière journée. Nous sommes ravis de pouvoir accueillir de nouveaux invités tout au long de cette journée qui vont nous rejoindre sur notre plateau sur les antennes de Radio Immo et Radio Territoria. Je suis ravi de recevoir Alice Barrois. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Alice, vous êtes architecte et directrice de Grimshaw Paris. Merci d'être présente. Déjà, une première impression que vous avez, que vous pouvez avoir de ce salon en arpentant les allées.
C'est un bon salon de rentrée, on se retrouve tous. Ça permet de recroiser l'ensemble de nos acteurs, amis, partenaires, confrères, consoeurs. C'est toujours un lieu convivial et dans un très bel endroit en plus.
Histoire de faire un peu plus connaissance, alors vous avez rejoint Grimshaw en 2014.
Tout à fait.
Après une formation en architecture post-carbone. Et puis vous vous êtes installé sur Paris, c'est ça?
Tout à fait. J'ai passé quelques années à Londres et en Australie pour Grimshaw. Sur divers projets dans des secteurs très variés. Et je suis revenue en France toujours avec l'agence Grimshaw, puisqu'on avait gagné à l'époque deux gares du Grand Paris Express. Et c'est ce qui nous a permis ensuite de fonder la filiale française qui a aujourd'hui grandi, qui compte une quinzaine de personnes d'employés en France.
Ok, et donc vous intervenez notamment dans les infrastructures, le ferroviaire et les programmes mixtes, hein, c'est ça?
Tout à fait, c'est beaucoup de mobilité, beaucoup d'infrastructures, la mobilité au sens large, donc de la très très grande échelle à la petite, aux petites passerelles piétonnes vélo, aux projets urbains, aux projets de gare, d'aéroports, donc vraiment toute la mobilité au sens large et comment on passe d'une mobilité à une autre, qui est une question très intéressante.
Évidemment.
Est nécessaire.
Et importante.
Et importante. Et donc ensuite également tout secteur de bâtiments, d'équipements publics notamment, avec un certain niveau de complexité et des questions environnementales.
Allez, je vais vous partager, si vous voulez bien, un chiffre de l'ADEME. En 2023, le secteur du bâtiment a généré environ 22 millions de tonnes de déchets issus des produits et matériaux de construction. Dans le même temps, 182 millions de tonnes de matériaux neufs ont été mis sur le marché. Ça, c'est l'ADEME qui donne ces chiffres. La décarbonation, est-ce qu'elle finalement, elle est en train de changer profondément le métier, le vôtre, le métier d'architecte, ou surtout d'ajouter de nouvelles contraintes?
C'est un peu les deux à la fois.
Ouais.
C'est effectivement beaucoup de contraintes parce que ça arrive très vite et qu'il y a cette pression nécessaire d'être efficace et de trouver des solutions tout de suite, voire même presque hier. Et on connaît l'urgence qui est là. Donc effectivement, ça peut être perçu et c'est parfois vécu effectivement comme une contrainte qui arrive. Et en même temps, c'est beaucoup d'opportunités parce qu'on a vraiment tout notre métier un peu à réinventer, en tout cas la construction à réinventer, je dirais même plutôt. À retravailler, à redécouvrir peut-être des choses qu'on a perdues avec les années, redécouvrir des savoir-faire qui sont peut-être plus spécifiques à nos régions et à des régions de France, par exemple, ou quel que soit le pays dans lequel on travaille. Donc il faut retrouver peut-être cette connexion avec toute la diversité de matériaux, la diversité des solutions qu'on a. Mais c'est long, c'est tout le secteur de l'industrie, de la construction qui doit se transformer, parce que ça oblige à recréer plein de filiales, ça oblige à recréer beaucoup de choses pour travailler, savoir faire. Il est vraiment essentiel, effectivement.
22 millions de tonnes de déchets par an dans le bâtiment. Évidemment, on pense tout de suite au réemploi. Pourquoi est-ce que c'est peut-être pas encore suffisamment un réflexe dès la conception?
On y pense, je pense que confrères et consoeurs en maîtrise d'œuvre, on y pense tous. Le réemploi est compliqué à mettre en place pour des questions assurantielles, pour des questions de mise en œuvre derrière. Et pour des questions même parfois d'esthétique, il peut y avoir une inquiétude dans certains projets de l'esthétique, de la durabilité d'un objet en réemploi ou d'un matériau en réemploi. Donc il y a des éléments qui se font très bien, surtout sur tout ce qui est l'eau technique, où il y a beaucoup de sujets et vraiment les filiales sont déjà vraiment en place. Et puis il y a aussi un autre sujet, c'est la disponibilité. On peut penser à un projet en réemploi complet. On a eu des concours à l'agence. On a pensé le projet avec, par exemple, beaucoup de briques de réemploi.
Il n'y avait pas la matière.
Il faut imaginer qu'après, si on gagne le concours, la vraie question, c'est la faisabilité de ça. Ouais. Il faut avoir la disponibilité.
Ouais.
Et la disponibilité, on ne maîtrise pas la couleur, on ne maîtrise pas toujours la qualité ensemble, etc. Et donc, ça pose des questions esthétiques de comment on maîtrise ce projet-là, de l'image qu'on a au départ jusqu'au bout. Donc, ça ouvre d'autres questions. Et après, l'arrêter derrière, de, effectivement, s'il n'y a pas ce sourcing, comment on fait? Aujourd'hui, le comment on fait, c'est que du coup, ça repart sur du neuf. Et c'est ça la complexité, c'est d'avoir vraiment le sourcing de réemploi et où est-ce qu'il est. Il y a eu un travail énorme sur les dernières années de de filières de réemploi mises en place, de personnes qui se spécialisent vraiment dans ce domaine-là, de filières du stockage, puisqu'il faut le stocker. La question du réemploi aussi, c'est que du coup, il faut stocker ce qu'on a.
Évidemment.
Donc, il faut de la place. Ouais. Il faut mettre en place tout ça. Donc ça pose effectivement plein de questions. La logistique est effectivement importante. Donc c'est vrai que les blocages aujourd'hui, ils sont beaucoup dans tous ces leviers-là. L'assurantiel, l'esthétique, c'est vraiment pour le coup dans notre responsabilité de le maîtriser, de rassurer, d'expliquer comment effectivement, si la couleur elle change, comment effectivement ça fonctionne toujours pour le projet. Ça, c'est vraiment pour le coup quelque chose sur lequel on a une belle part à jouer. Et après, la capacité des entreprises derrière à assurer le sourcing, à s'assurer qu'il y a vraiment la matière disponible, c'est vraiment important.
Ouais, la disponibilité, finalement, ça peut remettre en cause un appel à projet, le cahier des charges à revoir.
Ouais, tout à fait. Et je pense que ça fait partie des contraintes et des inquiétudes parfois des maîtrises d'ouvrage où effectivement quand on a un projet dont l'équilibre carbone prend en compte beaucoup de réemploi mais qu'il n'y a pas le sourcing, ça peut faire tomber effectivement le résultat carbone du projet. Ça peut faire retarder beaucoup de choses. Donc c'est ça derrière les inquiétudes et les leviers à travailler.
Alors vous travaillez évidemment sur les sujets de la sobriété aussi et de l'optimisation de la matière. Est-ce qu'il faut désormais apprendre à construire avec moins?
Oui. Absolument. Et c'est une vraie question intéressante parce qu'il faut construire avec moins, il faut construire léger et en même temps, on a besoin d'inertie.
Ouais.
On ne peut pas faire des constructions très légères. On voit bien que la chaleur, il faut travailler l'inertie, l'isolation.
Bien sûr.
Et donc, l'équilibre, il est vraiment important et essentiel à travailler. La légèreté, on peut la retrouver dans plein de choses sur des structures plus éphémères. Il faut travailler aussi peut-être la question de la temporalité des architectures concrètes et les évolutions qu'elles auront. Il y a quelque chose qui est important quand on travaille, c'est qu'on considère que les usages vont continuer d'évoluer. Je pense que la grande frustration peut-être qu'on a aujourd'hui dans nos villes et nos architectures, c'est que les usages évoluent très vite. Mmh. Le changement climatique qui arrive fait que, et on l'a tous très bien vécu cet été, pour n'en citer qu'un, la question de l'adaptation à la chaleur. Il faut trouver des solutions très vite et on ne les a pas forcément. Donc ces usages, ils vont évoluer. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Donc il faut trouver effectivement moins de matière, il faut trouver des solutions légères, peut-être beaucoup à petite échelle. La question de la petite échelle est intéressante. C'est contradictoire parce qu'on est une agence qui travaille sur des gros projets de grande échelle, mais malgré tout, on reconnaît que l'échelle individu, l'usage du quotidien et le confort qu'on retrouve dans tout lieu, que ce soit son appartement, que ce soit dans l'espace public, que ce soit... Peu importe, il faut qu'on retrouve à l'échelle individuelle cette notion de confort.
Oui, puis c'est le cœur du sujet, quoi.
C'est le cœur du sujet, tout à fait. Donc il faut faire effectivement avec moins de matière, c'est ce qui permettra d'être plus efficace dans la réalisation des projets derrière, mais il faut vraiment garder cette notion de confort et comment on va arriver à garder cette notion de confort au quotidien.
Comment on arrive à garder cette notion de confort, et ça va peut-être vous aider en fait à décider des matériaux à retenir ou pas, bois, béton bas carbone, acier, matériaux de réemploi, on en a parlé. Comment est-ce que justement on arrive à trancher?
Chaque matériau a ses qualités et ses défauts. Il n'y a jamais un matériau idéal. On a fait, pour plein de raisons historiques, sûrement très valables, un trio assez fort béton, acier, verre qui a façonné nos architectures vraiment partout dans le monde. Peut-être trop, en tout cas à mon goût, puisque ça vient lisser une architecture qui se ressemble presque un peu partout. C'est dommage. Et donc il faut vraiment reprendre chaque matériau pour son intérêt. Le béton, il a eu un intérêt énorme dans le milieu de la construction. Ça a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a énormément de solutions et de techniques de mise en œuvre du béton qui sont réadaptées à des solutions, par exemple en terre cuite. Et donc ça permet quand même, malgré tout, de faire évoluer les savoirs. Ça, c'est important. De pouvoir l'adapter sur d'autres choses. Pour revenir à la question sur quel matériau, chaque matériau a une qualité. Et donc, il faut vraiment prendre le projet, l'usage. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire à cet endroit-là précisément?
Sachant que vous pouvez en plus mélanger les matériaux et ça devient des projets entre guillemets un peu hybrides, on pourrait dire.
Et c'est ça qui est intéressant, et je pense que c'est là où il y a une vraie richesse dans l'esthétique architecturale. La question aujourd'hui de la transformation, du réemploi et des évolutions, elle vient questionner aussi beaucoup l'esthétique de nos architectures et bâtiments. Avec peut-être beaucoup d'inquiétudes que je partage par ailleurs de transformation du patrimoine et de quelle image on a quand on vient mettre une couverture d'isolation sur des bâtiments qui ont une esthétique très forte. Et malgré tout, on ne peut pas se permettre de ne pas changer cette architecture puisqu'elle n'est plus adaptée. mais il va falloir travailler l'esthétique par justement cette diversité de matériaux, retrouver des modélatures qui nous sont propres et qui nous correspondent et qui correspondent aux enjeux et aux usages qu'on a besoin aujourd'hui.
Est-ce que la réhabilitation aujourd'hui, elle doit devenir finalement le premier scénario étudié avant toute construction neuve ?
Oui, absolument. Le patrimoine, on a un patrimoine construit qui est vraiment très important. Et il y a un tel enjeu de transformation de celui-ci qu'on ne peut pas ne pas le prendre en première priorité. Par contre, c'est la question de quel degré de transformation on lui inflige ou on lui impose, qui est parfois nécessaire, puisque quand on parle de bâtiments qui ont été contaminés à l'amiante ou avec d'autres matériaux qui sont publiquement pas sains, et on le sait, sur lequel il faut vraiment travailler cette transformation, il faut savoir effectivement accepter que des bâtiments très vitrés sont plus adaptés et qu'il va falloir effectivement vraiment les transformer et leur donner une nouvelle image. Donc oui, la réhabilitation toujours en premier, ça sera effectivement notre parti pris. Et en même temps, il faut aussi considérer qu'il y a forcément un minimum de niveau de transformation à impliquer. Et la question, c'est comment on le fait pour le faire en bonne conscience, comment on utilise un maximum de réemploi pour limiter justement la quantité de matériaux neufs. Ouais. Et le chiffre que tu as mentionné dès le début, il est vraiment révélateur. C'est comment on arrive à travailler cette réduction de matériaux neufs et de ressources neuves.
Et si on parle de la maîtrise d'ouvrage, les MO, est-ce qu'ils sont vraiment prêts à accepter moins de surface, moins de matière ou davantage de réemploi? Et tout cela avec un objectif, c'est celui de réduire évidemment son impact.
Oui, aujourd'hui, l'enjeu il est là. Tous les programmes qu'on reçoit, tous les projets qui sont en cours ont vraiment une très très forte ambition. Et les niveaux de contraintes sont vraiment là. Et on le sent et on le voit, il y a effectivement de grandes attentes. Donc oui, je pense que c'est plutôt la réalité derrière technique de mise en œuvre. La question sur le réemploi que vous avez posée, de quelles sont les contraintes qui font qu'on arrive du mal parfois à les réaliser. C'est derrière ces réalités-là qui posent des inquiétudes et sur lesquelles il faut travailler collectivement pour y répondre.
Un mot sur la préfabrication qui permet aussi quelque part de réduire matière, déchets et puis les délais aussi.
Ouais,
et ça, c'est un vrai sujet aussi, les délais. Est-ce qu'elle est aujourd'hui prête à changer d'échelle justement, puisque le thème aussi de ce salon, c'est le passage à l'échelle et sans uniformiser non plus l'architecture. On en a dit aussi deux mots tout à l'heure.
Le Grimshaw, le fondateur de l'agence, Nicolas, a travaillé depuis ses débuts sur des projets très industriels.
Oui.
Et il avait cette réflexion, il a énormément mélangé des éléments qui sont issus de l'industrie pure, donc très préfabriqués, qui sont des éléments modulaires, très standardisés, et d'en faire des architectures qui, pour autant, ont une esthétique qui ont marqué l'histoire architecturale, qui ont marqué ce côté high-tech de l'architecture. Donc, on voit bien que c'est une question de mise en œuvre, une question de comment on assemble ces éléments pour en faire quelque chose qui soit marquant. Nicolas avait été convaincu, et je le rejoins tout à fait là-dessus, que l'usage et la joie que nous procurent les bâtiments qui en font vraiment l'esthétique et le fait qu'on les apprécie.
Ouais.
Donc si un bâtiment est adapté à ce qu'on a besoin, s'il répond à cette notion de confort, s'il répond à apporter la bonne lumière, la bonne acoustique, et bien tout de suite on se sentira mieux et on l'appréciera. Donc la modularité, oui, ça fonctionne très bien, il faut juste la travailler avec l'architecture et le bâtiment, et ça marche à toutes les échelles.
Ouais. L'effet waouh, on l'a. Hein.
Bien sûr, exactement, on l'a. Et typiquement, il y a un grand travail de modularité sur des ouvrages comme celui-ci, qui sont très historiques. Et pour autant, il y a aussi un vrai travail sur l'esthétique, sur effectivement des éléments d'ornement.
Ouais.
On est vraiment sur une architecture plus ancienne, mais on le voit bien qu'il y a un travail à la fois d'ornementation et de modularité de préfabrication qui est vraiment exceptionnel.
Alors, vous n'avez pas été mandaté pour, mais si on vous interrogeait, par exemple, si on vous posait la question, tiens, il fait vraiment chaud ici,
oui.
Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, il y a un travail qui a été fait de refroidissement et on le sent.
Oui.
Il fait chaud, mais malgré tout, on le sent. Ouais. Et effectivement, c'est très, très appréciable. La difficulté, c'est la quantité de verre. Et aujourd'hui, c'est peut-être l'un des grands enjeux qu'on a dans toutes nos conceptions, c'est qu'il faut apporter de la lumière naturelle. Nous sommes des êtres qui ont besoin de soleil et de lumière. Et aujourd'hui, on arrive avec les enjeux climatiques. Un mètre carré de verre, c'est un énorme chauffage. Donc aujourd'hui, on a au-dessus de nous un gros chauffage ambiant. Ouais. Il faut pouvoir réussir à le couvrir. Il faut aussi créer des protections pour la gêne visuelle. Donc il y a un travail effectivement de protection sur des éléments verriers comme ça qui vont être importants. Et c'est assez compliqué sur des ouvrages comme celui-ci qui sont effectivement très historiques de pouvoir y intégrer puisque ça n'a pas été fait pour. Pendant les Jeux Olympiques, puisqu'il y a effectivement
c'était
une partie.
C'était magnifique. Hein,
c'était absolument exceptionnel. Il y avait un travail de toile qui permettait déjà de couvrir aussi une partie, qui améliorait énormément déjà la première notion de confort. Donc il y a effectivement des solutions qui se font. Et en l'occurrence, ici, qui est une solution plutôt légère, puisqu'on utilise un textile.
Ouais. Conception numérique chez vous. Vous avez affaire à l'IA. Ça vous aide aussi dans votre travail au quotidien?
Alors, c'est des outils qui évoluent effectivement, qui vont toucher tous nos métiers. Aujourd'hui, ça s'utilise beaucoup sur le travail plutôt de production graphique, on va dire de post-production.
Okay.
Dans nos usages au quotidien, le dessin, vraiment la conception, elle est à la main de l'architecte et des architectes. Nous avons la responsabilité de la conception, de la conformité de nos projets. Et donc, au final, le dessin même de l'ouvrage reste à nos mains. Donc, ces outils d'évolution et de transformation numérique vont sûrement bouleverser la manière dont on gère la donnée, dont on gère cette transformation et les outils, de la même manière que l'arrivée de l'ordinateur a complètement transformé le métier de l'architecte, que des outils de BIM, par exemple, ont transformé aussi la manière dont on modélise et on conçoit. Donc pareil, il y a une nouvelle révolution qui se dessine. Je trouve personnellement assez important de travailler la bonne justesse d'utilisation de ces outils. On connaît aussi leur impact environnemental, donc il faut être raccord sur la réflexion qu'on a sur l'environnement au sens large. Et on sait aussi qu'il y a un travail assez fort de l'évolution de la gestion des données, qui notamment sur des questions environnementales, des questions paramétriques, sur des ouvrages complexes, peuvent permettre de travailler, de faciliter certaines compréhensions, certains sujets.
Alice, une dernière question comme ça, vous n'y attendiez pas, mais je vous la pose quand même. Qu'est-ce qui vous éclate encore aujourd'hui dans votre job? Parce que je vous sens épanouie quand vous parlez de tous ces sujets-là.
J'ai la chance de travailler sur des projets dans des secteurs excessivement variés. À la fois, on découvre des univers complètement différents, des villes très différentes, des populations, des usagers très différents. Et je trouve qu'il y a ce côté très humain à notre métier. Qui est très fort.
Et à l'heure de l'IA, c'est pas si mal.
Ouais, et en fait, c'est vraiment ça qui est très important. Ce que je peux raconter, donc on a livré une passerelle à Toulouse en 2024. On était présents avec mes collègues à l'inauguration. On a fait traverser pas mal de gens à vélo, à pied. Et on a eu l'occasion, du coup, nous, d'être là et de aussi rouler à vélo dans la ville et de pouvoir traverser. Et c'est vrai que de voir à quel point ça change et ça bouleverse, de pouvoir échanger avec les usagers même et de se rendre compte que dans leur quotidien, pour aller au travail, en fait, ça change tout parce qu'ils traversent une île végétalisée et que c'est le bonheur du matin. On se dit qu'au final, ça valait le coup et que c'était pas mal d'y mettre autant d'efforts qu'il y a eu sur ce projet.
On est content de se lever le matin.
Exactement, tout à fait.
Merci beaucoup, Alice.
Merci.
D'avoir gentiment répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes architecte et directrice de Grimshaw Paris. Merci encore une fois d'avoir gentiment répondu à notre invitation. Merci également de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver en intégralité, cette émission en replay sur nos plateformes. Nous, on se retrouve dans quelques instants, toujours ici, depuis le Grand Palais, pour vous faire vivre cette troisième et dernière journée du Salon CIPCA, qui fête cette année ses 5 ans. A tout de suite.
Le CIPCA, le Salon de l'immobilier bas carbone, sur Radio Immo et Radio Territoria.